Nous sommes de retour sur Radio 100% lycéens en direct du lycée Charles Péguy d'Orléans. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, vient de nous rejoindre pour une interview. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Né à Mie dans le Loiret en 1953, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres modernes. Vous faites vos débuts à l'université d'Orléans, d'abord professeur puis conseiller d'orientation. Vous devenez par la suite le chef d'établissement du collège d'Amilly, Robert Schumann, jusqu'en 2013. Vous avez été vice-président de la communauté d'agglomération montargeoise durant 7 ans, conseiller municipal de Montargis, conseiller régional depuis 1998, vous présidez le groupe socialiste au conseil régional du centre de 2000 à 2007. En septembre de la même année, vous êtes élu président du conseil régional à la suite de la démission de Michel Sapin. Aujourd'hui, vous êtes à votre troisième mandat en tant que président de la région Centre-Val de Loire sous les couleurs du Parti Socialiste. Merci d'être à notre micro ce matin. Première question. La région choisit chaque année, depuis plusieurs temps, de mettre en place le dispositif Radio 100% lycéen. Pourquoi ?
100% lycée, d'abord parce qu'à chaque fois que je viens voir les lycéens qui l'animent, ils sont nombreux dans tous les lycées de notre région où on a mis en place. Je vois des jeunes complètement mobilisés, complètement investis, qui travaillent en équipe avec leurs enseignants, avec les CPE, avec la vie scolaire, et qui, vraiment, à travers cette expérience, si vous me permettez l'expression, grandissent, au sens où ils s'investissent dans une communication. Ça suppose la responsabilité, on ne dit pas n'importe quoi à la radio, ça se prépare, ça s'organise, on se met en discussion avec l'extérieur. Donc c'est vraiment une action éducative au sens fort qui est vraiment importante, et la meilleure des éducations, c'est quand on prend du plaisir à apprendre, à découvrir, à faire, et je crois que vous prenez du plaisir.
Oui.
Monsieur Bonneau, une question sur la précarité étudiante avec la fermeture des universités et l'accès très compliqué aux jobs étudiants. De nombreux jeunes se retrouvent confrontés à la précarité financièrement comme matériellement, et que met en place la région pour lutter contre la précarité étudiante ?
Les étudiants sont, les jeunes en général, les étudiants parmi les jeunes, sont très impactés par la crise. Vous avez raison de le souligner. S'ils sont moins touchés que les plus âgés par le risque de mortalité, ils ont beaucoup, beaucoup de choses qui sont heurtées dans leur parcours de jeunes. Les étudiants en particulier, beaucoup ont perdu leur job. Et leur job, ce n'était pas pour mettre sur le CV, c'était parce qu'ils en avaient absolument besoin pour payer leur chambre étudiante, pour payer leur nourriture, pour payer leur vie. Ils ont perdu leur job. Ils ont des études qui sont fractionnées, ne peuvent plus aller à la fac, commencent à y retourner, mais globalement, ils n'y sont quasiment pas allés cette année. Je pense aux premières années qui commencent, ils ne savent pas ce que c'est, comment on s'organise dans le travail universitaire, et là, c'est très difficile. Ils ont, pour certains, du mal à trouver un stage, quand il y a un stage à faire dans les études, etc. Donc, ils sont très mal. Et vous posez la question des jobs, qu'est-ce qu'on fait pour les jobs ? Un, la région a mis en place une carte alimentaire que nous donnons aux services sociaux universitaires pour qu'ils la remettent à tous les jeunes qui ont vraiment des besoins essentiels pour l'alimentation, pour les produits d'hygiène. On l'a fait dès la rentrée, dès le mois d'octobre. On va à nouveau le faire, là, le 18 février, puisque j'ai proposé à l'Assemblée de voter à nouveau des cartes alimentaires qui vont être données. Pour le job lui-même, il faut essayer de faire repartir les jobs. On a créé, à l'échelle de la région, une plateforme qui s'appelle JobAvise. Et je dis à tous les chefs d'entreprise, à tous les services publics qui ont besoin d'emplois temporaires, etc., mettez vos offres sur la plateforme pour que les étudiants aillent sur JobAvise pour trouver de nouveaux jobs. D'autre part, à la session du 18, là, je propose 500 jobs qui vont être portés par des associations pour l'aide aux devoirs, pour l'accès aux droits, pour la solidarité intergénérationnelle, etc. Ce sont des jobs étudiants. La région va apporter 1 000 euros par job à 500 associations pour que, sur une durée de 2 mois minimum, des étudiants puissent venir retrouver des jobs. Donc, nous nous engageons à l'échelle de la région, mais je le fais aussi avec toutes les collectivités. Actuellement, je réunis département par département, des collectivités territoriales, des services de l'État, des associations, en disant on y va ensemble, on multiplie ces jobs parce qu'il faut vraiment donner un signe fort à ces étudiants qui ont perdu leur boulot, leur permettre de retrouver quelque chose, de retrouver le fil de leurs études et parfois le fil de leur vie.
Puisqu'on parle des étudiants, on peut remarquer que l'offre de formation étudiante en Centre-Val de Loire n'est parfois pas suffisante pour répondre à la demande étudiante. Ils sont donc parfois obligés d'aller dans d'autres régions, comme en Île-de-France. Que faire pour ces étudiants ?
Il y a, comme vous le suggérez dans votre question, un problème de volume de l'offre. Est-ce qu'on a assez de formation, etc. Je vous dis, par exemple, dans notre région, moi j'aimerais très fort que nous puissions avoir beaucoup plus de formation d'ingénieurs. J'aimerais très fort que nous développions, parce qu'il y a pas mal de débouchés autour de ça, une filière Sciences Po qui soit à l'échelle de notre région. Il faut qu'on continue à développer, c'est clair, un volume. Mais je pense qu'il faut aussi que nous ayons des formations qui soient attractives et qui permettent aux jeunes de notre région de se dire il y a une excellente formation de ceci, de cela, à caractère économique, à caractère juridique, à caractère sociologique, à caractère artistique dans ma région, et je suis fier de ça. On a de très belles formations dans la région, mais il faut que nous en ayons davantage avec vraiment une attractivité, une image nationale et internationale. Je pense aussi à l'international. Plus ça va, plus les jeunes ont envie et besoin d'avoir dans leur cursus au minimum une année pendant laquelle ils vont s'ouvrir à l'international. Mais il faut que nous-mêmes, nous soyons ouverts à l'international. Nous avons pour la recherche un formidable outil qui s'appelle le Studium. Il faut que, pour les étudiants eux-mêmes, il y ait cette dimension de l'international qui se renforce aussi.
Concernant la culture, la région s'engage beaucoup pour que les jeunes aient accès justement à la culture. Quels sont concrètement les outils mis à leur disposition ?
D'abord, la culture partout pour tous. La culture de proximité. La culture, ce ne sont pas que, même si c'est important, des grandes scènes de niveau national. La culture, ça doit être sur le campus, ça doit être dans le chef-lieu de canton où l'on vit le week-end, ça doit être à la sous-préfecture, etc. Et pour ça, nous avons développé des dispositifs qu'on appelle des pactes, des plans d'action culturelle de territoire. Il y a à l'échelle de la région 80 pactes, donc ça veut dire plus d'une dizaine par département, plus d'une dizaine de territoires par département qui ont une aide de la région pour développer une programmation culturelle. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit très fort. Et pour les jeunes en particulier, moi je suis fier qu'on soit la région d'accueil du premier grand festival qui est le Printemps de Bourges. C'est le premier de l'année à chaque fois. Alors là, on est un peu dans le tunnel avec la crise Covid. Mais c'est vraiment le Printemps de Bourges a quelque chose de fort. Je suis très heureux qu'on ait des développements comme Terre du Son. Je suis très heureux qu'on ait à Orléans désormais des choses qui se développent très régulièrement. C'est en septembre, c'est au Campo Santo et ça réunit un grand nombre de jeunes. Donc qu'il y ait des notamment par rapport aux musiques actuelles. Qu'on ait des initiatives qui puissent se développer dans la proximité. Parce que il faut bien comprendre que les jeunes ne vont pas forcément faire 300 ou 400 kilomètres. Pour autant, il y a des jeunes qui ont envie de partir à Paris pour un concert, pour un groupe qu'ils aiment bien, etc., etc. Et c'est en pensant à eux que nous avons mis les nouveaux tarifs pour les jeunes qui font que le week-end, quand on va à Paris ou quand on va à Bourges ou quand on va à Tours, quand on est à Orléans, on va payer son billet de train moins cher que ce qu'on paierait si on partait avec un système de transport routier en covoiturage.
Nous avons pu donc évoquer l'accès à la culture qui est très facilité, pardon. Mais aujourd'hui, on observe que l'offre culturelle se réduit nettement à cause de la pandémie. Quels sont les pouvoirs de la région concrètement dans la lutte contre le Covid-19 ?
D'abord, la solidarité. D'abord la solidarité, parce que le Covid-19 touche potentiellement tout le monde, mais pas de la même manière. On s'aperçoit que les gens qui sont les plus fragiles. Ben, si je prends l'exemple de jeunes, je suis allé en voir aux résidences universitaires de Tours, de Blois, d'Orléans, à Orléans. Les jeunes qui restent pendant des semaines et des mois et qui sont seuls dans leur piole, qui ont perdu leur job. C'est des jeunes qui sont en grande difficulté. Donc il faut penser aux plus fragiles. Il faut penser aux plus fragiles chez les jeunes, dans les familles, les plus âgés, etc. Ça doit, nous le faisons. Nous avons mis en place, par exemple, une aide financière pour tous les soignants, les étudiants en infirmiers, etc., qui ont participé à la prise en charge en 2020, qui ont participé à la prise en charge des malades du Covid. La région a mis en place une aide particulière, supplémentaire, et c'est un point qui est un point important. Par ailleurs, pour réduire le risque, j'ai fait savoir au Premier ministre, au ministre de la Santé, que nous étions disponibles pour faciliter les campagnes de vaccination. J'ai rendu gratuits tous les transports en commun, tous les transports à la demande, pour que les gens puissent aller sur les lieux de vaccination. Ce sont des exemples de la mobilisation, elle est indispensable. Il faut que tout le monde se mobilise en tant que citoyen, en solidarité avec son voisin, avec son copain, avec le jeune à côté qui est dans la difficulté. Qu'on le fasse par rapport, dans la vie de tous les jours, par rapport à la personne plus âgée qui, pour aller se vacciner psychologiquement, a un peu peur, etc. Et puis, il faut qu'on le fasse, cette solidarité, j'utilise même l'approche psychologique très volontairement. Il y a des gens qui souffrent psychologiquement. Il n'y a pas que la souffrance physique, il y a la souffrance psychologique. Quand vous êtes isolé, quand le fil de votre vie est un peu déchiré, c'est le cas pour des jeunes qui voient leurs études un peu mises en difficulté, mais c'est le cas de personnes âgées qui sont isolées, c'est le cas de familles dans lesquelles il faut vivre dans un appartement F4, un 4 ou 5 parce qu'il y a télétravail, parce que les hommes, etc. Il y a des gens qui vivent mal ce passage psychologique. À cet égard, dans la délibération du mois de février, là, du 18 février, nous allons proposer une aide pour les universités, pour les services psychologiques des universités, de manière à ce qu'ils accroissent leur capacité d'intervention en direction des jeunes étudiants.
Excusez-moi, par rapport au Covid-19, certains proposent d'instaurer un passeport vaccinal. Ça permettrait aux personnes qui sont vaccinées d'accéder à certaines choses, comme les musées, les restaurants. Quel est votre avis là-dessus ?
Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'un côté et de l'autre et que notre société ne se fracture pas. Il faut au contraire avoir des approches inclusives. Et la meilleure des approches inclusives, et je le dis sans hésitation, c'est vraiment que massivement tout le monde aille à la vaccination. Moi-même, le jour où ma tranche d'âge sera concernée, j'irai à la vaccination et je le dirai parce que c'est un acte citoyen. Bien sûr, on se protège soi-même. Mais c'est peu de choses, se protéger soi-même par rapport à la responsabilité que l'on prend en se faisant vacciner. Quand on se fait vacciner, on bloque la circulation du virus. Donc on protège les autres. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est comme on l'a fait pour plein d'autres choses. Quand vous étiez enfant, vous avez reçu un certain... Parce que vos parents vous ont accompagné, vous avez reçu un certain nombre de vaccins qui font que des maladies, qui étaient des maladies terribles, je pense à la variole, etc., sont aujourd'hui la polio. La polio, dans ma génération, on avait autour de nous un certain nombre de gens qui avaient eu la polio. Vous n'avez plus ça autour de vous, parmi les jeunes de votre génération. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un principe de vaccination générale. Donc là, il faut que les choses se calment, il faut accélérer la production de vaccins. Moi, je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas une meilleure articulation au niveau global, au niveau mondial, entre l'outil qui est l'outil de production des vaccins et le besoin. Je trouve qu'il aurait été vraiment normal que l'OMS fasse que les brevets pour tous ces vaccins dont on parle soient, étant donné la pandémie, soient directement versés dans la disponibilité globale, la disponibilité publique, et qu'on puisse avoir un grand nombre de laboratoires. On en a ici en région Centre-Val-de-Loire de très beaux. Deux d'ailleurs vont produire du vaccin, mais on pourrait aller beaucoup plus loin pour le faire et de le faire de manière globale. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Ne pensons pas qu'à nous. Certes, l'Afrique a été dans un premier temps moins touchée, etc. Mais on a des régions pauvres du monde dans lesquelles, si on n'y prend pas garde, on va avoir véritablement des situations qui sont des situations totalement d'une grande barbarie, parce que les gens ne seront pas vaccinés, parce qu'il n'y a pas forcément les gens pour vacciner, parce que le produit va coûter plus cher, parce que les organisations de santé ne sont plus là. Il faut que nous pensions, bien évidemment, à protéger nos concitoyens, les plus fragiles, etc. Mais pensons aussi global, c'est une maladie globale, c'est une maladie planétaire, c'est une épidémie, c'est une pandémie. Il faut aussi que nous pensions à la solidarité vis-à-vis des populations qui habitent des continents qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas aujourd'hui un niveau de développement économique et social qui leur permet de plein pied directement d'avoir accès à ça.
Tout autre sujet, la région peut mener des actions en faveur de la transition écologique, notamment dans les lycées, en les rendant, par exemple, plus responsables. Que fait la région pour ça ?
Il y a 100 lycées en région. 100 lycées, 40 sont aujourd'hui avec des systèmes de production d'énergie, de distribution d'énergie et d'isolation à peu près performance, qui nous a permis d'économiser sur ces 40-là entre 35 et 37% de consommation énergétique, et ça nous a permis de réduire de plus de 30%, la production de gaz à effet de serre, ce qui est pas mal. Il nous reste 60 lycées, vous avez raison de le dire, même si vous n'êtes pas tous des scientifiques, vous avez vite fait le calcul, mais que fait la région pour les 60 lycées restants ? Bien, pour les 60 lycées restants, dans le budget qui va être voté là, au mois de février pour 2021, on engage un dispositif qu'on appelle COEPI. Retenez pas, c'est pas très important, ce qui est important c'est à quoi ça correspond. Ça correspond à la mise en performance énergétique, et là aussi plus de 30% d'économie de production de gaz à effet de serre, à la mise en performance énergétique de ces 60 lycées restants. On va changer des chaudières, on va changer des systèmes de distribution d'énergie. C'est ridicule de devoir chauffer à 23 ou 24 degrés l'aile qui est au sud pour que ceux qui sont au nord aient 18 degrés. Parce qu'à 18 degrés, on n'est pas bien, et à 24, on n'est pas bien non plus. Donc le système de distribution de chaleur à l'intérieur des bâtiments, performance énergétique des ouvrants, les fenêtres, les portes, etc. Mais je vais vous dire une chose. J'en discutais hier soir avec une association qui est structurée là-dessus. On ne gagnera la bataille qu'avec vous. C'est quand les occupants, c'est-à-dire dans un lycée, les jeunes lycéens, sont complètement partie prenante, comprennent ce qu'on est en train de faire, vont faire vivre cette histoire de performance énergétique en ouvrant les fenêtres à bon escient, en faisant en sorte que les portes, etc., en mobilisant leurs camarades sur le respect d'un certain nombre de choses, en s'engageant eux-mêmes sur des problèmes de performance. La performance énergétique, c'est globalement l'environnement. Quand on s'engage à limiter, on peut le faire à 30%, limiter les déchets à la cantine, c'est considérable. C'est considérable. Quand on prend plutôt le transport en commun quand on est en BTS, classe préparatoire, parfois en terminale, plutôt le transport en commun que la voiture individuelle quand on a la possibilité de le faire, on limite très fortement les choses. Donc c'est une grande aventure avec les jeunes. Les jeunes sont là-dessus extrêmement volontaristes, extrêmement engagés. Ils ont conscience que notre planète brûle et que parfois on a trop longtemps regardé ailleurs. Ils sont capables de venir à ça. Faisons en sorte avec eux qu'ils soient acteurs de ce que j'appelle moi l'écologie des solutions. L'écologie, ça peut être une vision, mais ça peut être aussi des solutions. Moi, je crois à l'écologie des solutions.
D'ailleurs, l'écologie est l'une des identités importantes du parti Europe Écologie Les Verts. Pour les élections de juin, Charles Fournier, donc candidat Les Verts et votre vice-président, se présente, mais cette fois-ci sans coalition avec le PS. En quelques mots, pourquoi cette candidature séparée ?
Elle est regrettable. Je la regrette parce qu'on a bossé ensemble avec les écolos depuis 98. Vous voyez, c'est pas nouveau. À chaque élection, les Verts se présentent au premier tour de manière séparée. Je pense que comme on partage les mêmes valeurs, qu'on a la même énergie et qu'on fait avancer les mêmes projets, ça aurait été bien dans cette période qui est une période où on considère que l'écologie, c'est pas la propriété particulière d'un parti politique. Que dès le premier tour, ils ont fait ce choix, il est respectable, comme tous les choix en démocratie, il faut les prendre en compte, les respecter, il est respectable. Et je dis à mes amis les écologistes, au second tour, on sera rassemblés, parce que c'est ce qu'attend la population, une vision qui est une vision exigeante sur le plan social, je veux la porter, une vision exigeante sur le plan du développement économique, un nouveau modèle de développement économique, performant, inclusif, etc., et une vision qui fait de l'environnement, non pas un champ réglementaire de contraintes, etc., mais une écologie qui est un nouveau modèle de développement où on a une urgence qui est l'urgence climatique, c'est clair, l'urgence climatique, mais aussi des mises en œuvre qui constituent aujourd'hui pour les jeunes des nouveaux métiers, des nouvelles perspectives. Il faut que nous les mettions en œuvre ensemble. Donc je suis pour le rassemblement. Et ce rassemblement-là, je pense que nous allons le faire gagner aux prochaines élections.
Merci pour vos réponses. On avait encore plein d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, le temps va nous manquer. Donc je vais vous poser une dernière question, Monsieur Bonneau. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent s'engager ? S'engager en faveur de... En matière politique, s'engager dans leur lycée, s'engager dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Je leur dirais, et avec vraiment beaucoup de force et beaucoup de conviction, que vous, les jeunes, aujourd'hui, vous méritez toute notre considération. Certains se sont plu, pendant longtemps, à dire que les jeunes étaient tournés vers eux-mêmes, regardaient leur écran, ne s'occupaient pas du monde, etc. C'est complètement faux. Des jeunes comme vous, là, qui sont projetés, qui se projettent dans la société, dans ces problématiques environnementales, d'inclusion, de solidarité, de création, d'action culturelle, il y en a beaucoup. Votre génération est une génération de jeunes particulièrement responsables. Je dis vraiment sans me forcer, particulièrement responsables. Et donc, je dis autour de cet engagement, autour de cette notion d'engagement dans la société, vous avez un champ extraordinaire. Notre monde a besoin d'évoluer. On a parlé du défi climatique. On a parlé du défi de la pauvreté. Quand on me dit que 8, 10%, 15% dans un pays développé comme le nôtre, de gens vivant en dessous du seuil de pauvreté, on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. On ne construira pas une société qui soit juste, dans laquelle on aura plaisir à vivre sur l'exclusion d'une part importante. C'est le deuxième défi. Et puis, il y a tellement de choses à faire ensemble. Vous vivez dans un moment où on n'aura pas d'un côté l'industrie, de l'autre côté les services, de l'autre côté la culture, dans un troisième domaine la protection de l'environnement. On est en train de construire un monde où tous ces domaines-là composent une nouvelle croissance, un nouveau modèle de développement. Et donc vous êtes à un moment de l'aventure humaine, de l'aventure technologique, de l'aventure politique, où il y a beaucoup à réinventer, et on a tellement envie de le faire ensemble. Ensemble, c'est votre génération, et c'est la mienne, de faire ensemble, parce que le défi, il est immense. Mais vous venez à un moment où il y a des belles prises de conscience, vous portez d'ailleurs ces prises de conscience. Engagez-vous les jeunes, engagez-vous à fond, engagez-vous de manière solidaire. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, on a beaucoup de choses à faire ensemble.
Très bien, bon bah merci à vous d'être venu ce matin pour l'interview.
Merci.